Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Et bonjour à tous, bienvenue pour la suite du débrief de la draft 2023. Vous avez déjà eu dans vos oreilles Jean-Michel et Niti et moi-même pour vous parler de l'AFC Est, de l'AFC Nord, de l'AFC Sud. C'est donc le tour logiquement de l'AFC Ouest et la semaine prochaine vous aurez évidemment la NFC à partir du mardi 9 mai. Et pour m'accompagner, Jean-Michel, bonjour à toi.
Hey, salut Victor et bonjour tout le monde.
Mais écoute Jean-Michel, on va donc parler de cette division on ne peut plus compétitive.
Ah oui.
Qu'est l'AFC West. Et on va commencer avec Denver. Denver qui forcément avait un nombre de choix limité. Hein, puisque trade de Russell Wilson notamment, trade de Sean Payton aussi. Donc ça a commencé avec le 63e choix, avec Marvin Mims, receveur pardon, de Oklahoma, avec le 67e Drew Sanders, le linebacker d'Arkansas, au 3e tour Riley Moss, le cornerback, safety, on va dire defensive back de Iowa, en 183 le safety linebacker J.L. Skinner de Boise State, et avec en toute fin de 7e tour, le centre d'Oregon Alex Forsythe. Jean-Michel, un peu à l'image, on parlait des Titans, s'il n'y avait pas un million de choix à disposition. Sur ces cinq choix, est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement plu ?
Ah oui, moi j'ai un de mes chouchous, c'est Drew Sanders. J'aime beaucoup Drew Sanders, déjà j'aime beaucoup le joueur, j'aime beaucoup ce qu'il apporte, alors qu'il est très nouveau à cette position, puisque c'était une recrue en tant que edge rusher du côté d'Alabama. Et puis l'année dernière, il est parti à Arkansas, il a été recentré sur le second rideau en tant que middle linebacker, et déjà il a montré beaucoup de bonnes choses, il a montré également des manques, évidemment, il est encore très jeune à cette position, mais c'est quelqu'un qui peut couvrir, c'est quelqu'un qui a beaucoup de vitesse, donc il peut attaquer en blitz, c'est quelqu'un qui sur troisième tentative peut aller mettre la pression, c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses, donc moi franchement, globalement, j'aime bien tous leurs choix, les cinq, je les aime, mais si je devais en ressortir un, je dirais Drew Sanders, parce que en plus, c'est une position à besoin, je veux dire à l'intérieur, comme ça, du second rideau, ils ont plutôt des joueurs pas très athlétiques, des bonnes machines à plaquer, José Jewell, Alex Singleton, mais il leur manquait ce joueur un petit peu plus moderne, j'allais dire. Alors moderne, ça veut tout et rien dire, mais la NFL moderne, c'est-à-dire un linebacker très rapide, beaucoup de vitesse, qui peut faire beaucoup de choses, et ben voilà, c'est pas le cas de Jewell, c'est pas le cas de Singleton, c'est le cas de Drew Sanders, donc je pense qu'avec un bon développement, c'est vraiment le joueur qu'il leur fallait, et comme ça, au troisième tour, en plus, moi je trouve que c'est un choix très très solide.
Ouais, moi je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'il y a peu de choix, donc c'est difficile d'adresser tous les besoins, non pas que Denver soit une équipe qui ait particulièrement un million de besoins, hein. Ils ont surtout besoin que Russell Wilson se mette à la tête à endroit. Mais je suis d'accord que moi, tous les choix, je les aime. Marvin Mims, alors il y en a certains qui vont dire, mais il y avait déjà des receveurs et tout, mais déjà, tu n'as jamais assez de receveurs. Et j'adore vraiment Marvin Mims. Moi, je trouve que c'est un des joueurs les plus sous-cotés à la position qu'on avait dans cette draft. Drew Sanders, tu vois, je voyais des fins de premier tour et tout. J'étais un peu sceptique par rapport au fait que ces joueurs hybrides, parfois, on a un peu du mal à les retrouver à bonne position. Mais là, en 67, c'est une aubaine. Et s'il y a bien un mec à qui je fais confiance pour, réussir à trouver une place pour ces mecs comme Drew Sanders ou Skinner, c'est Sean Payton et coach les Broncos. Enfin, je veux dire, ils trouveront, c'est des bons coachs. Riley Moss, les Blancs savent sauter, hein, comme tu avais mis, je crois, dans un titre de podcast, référence cinématographique si vous ne l'avez pas. Voilà, peu de choix, mais que des bons choix. Que des joueurs où je me dis, ouais, ils peuvent vraiment apporter quelque chose. Peut-être pas en tant que titulaire tout de suite, mais en tant que remplaçant, ils peuvent vraiment apporter beaucoup. Et du coup, je suis ultra optimiste.
Oui, c'est ça, exactement. 5 choix, mais que des bons choix, parce que même si on prend les deux derniers dont on n'a pas parlé, on va en dire un mot vite fait. Un JL Skinner, par exemple, c'est un safety qui est très grand, qui est très puissant, qui a de la vitesse. C'est dommage, il a eu une petite blessure, on ne l'a pas vu au NFL Combine, mais c'est quelqu'un de très athlétique, croyez-moi. Et c'est très complémentaire d'un John C. Simmons, qui est plutôt, voilà, ce safety ball hawk, qui va faire des interceptions. Lui, c'est davantage le safety que tu mets dans la boîte. Et donc, du coup, ben, si on couple les choix de Drew Sanders et de JL Skinner, eh bien, tu solidifies l'axe du terrain en défense, et ça c'est très important. Et puis même le dernier choix, Alex Forsythe, le centre d'Oregon, c'est bien parce que oui, comme tu le disais, peut-être que celui-là il sera pas forcément un titulaire, mais ils ont un centre, ça fait 2 ans, on avait beaucoup d'attentes sur ce joueur Lloyd Cushenberry, puis finalement il a pas donné tout ce qu'il fallait, alors ben voilà, tu en draftes un au 7e tour ne serait-ce que pour lui dire à Cushenberry, ben tu sais quoi, voilà, ce joueur Forsythe, alors oui, il est moins athlétique que toi, mais il a montré au plus haut niveau universitaire qu'il avait du football, de l'intelligence de jeu, il sait jouer, donc t'as intérêt à te bouger lors du camp d'entraînement parce que sinon tu vas perdre ta place. Donc ne serait-ce que ça, déjà c'est très malin aussi. Donc ouais, 5 choix, mais 5 très bons choix, je trouve.
C'est beau à toi de considérer que la Pac-12 est le plus haut niveau universitaire. Ça se voit que tu te lèves pas à 4h du matin pour te taper des Arizona State, toi. Parce que je te jure que tu considérerais pas que c'est le plus haut niveau universitaire. Bref. En tout cas, du coup, ta note, ton appréciation ?
Ah, j'y vais sur compliments. Franchement, c'est des compliments. Il n'y a que 5 choix, c'est compliments. Ça ne peut pas être plus haut. Il n'y a pas ce joueur élite si tu avais eu un premier tour, etc. Mais pour moi, c'est plus qu'encouragement. C'est vraiment des compliments parce que les 5 joueurs, je les trouve très bons.
Ouais, pas mieux, pas mieux. Donc, on est sur compliments pour les Denver Broncos. On va passer aux champions en titre. Nos amis de Kansas City. Ville du Missouri et pas du Kansas, qui a choisi local pour une draft locale, hein, puisque ça se passait à la maison, au premier tour avec Félix Anudike-Uzoma, le edge de Kansas State. Ensuite, le receveur Rashi Rice de SMU, le tackle Wanya Morris de Oklahoma au troisième tour, Shamari Corner, le defensive back de Virginia Tech au quatrième, BJ Thompson, le edge de Stephen F. Austin au cinquième tour, puis le defensive tackle de Texas, Keandre Coburn, et le cornerback, defensive back de Ball State, Nick Jones. Là encore, il n'y avait pas un nombre de choix énorme. Bon, en même temps, il y a quand même très peu de besoins, hein, dans l'équipe de Kansas City. Quel est le choix qui vraiment t'a séduit ? Peut-être un Wanya Morris, dont je sais que c'était un de tes chouchous.
Ben oui, voilà, exactement. Oui, ce Wanya Morris, quand on avait fait la pastille sur les Chiefs, ben, je l'avais mis justement aux Chiefs. Donc, oui, moi, c'est un tackle que j'aime bien. Alors non, ce n'est pas le meilleur tackle de la QV, évidemment, sinon il n'aurait pas été disponible au troisième tour. Mais c'est un tackle, voilà, qui est grand, qui a une belle envergure, qui est plutôt puissant, qui sait faire plein de choses. Alors, il y a encore du travail à faire, évidemment. Mais en plus, un poste à besoin, parce que c'est vraiment un poste à besoin. Ils ont perdu Andrew Wiley, qui était le tackle le droit, même s'ils ont récupéré Jawan Taylor, mais ça sera sans doute pour le faire jouer à gauche, il fallait absolument rajouter un tackle. Et donc au troisième tour, Wanya Morris, ah, moi je pense que c'est un choix très très solide. Oui, j'aime bien ce choix là et même quelques autres que j'aime bien également.
Oui, bah écoute, moi je vais parler d'un joueur que j'avais en haute estime et que j'évaluais comme un premier tour, c'est Félix Anudike-Uzoma. Je sais que c'est pas le joueur qui séduisait, on va dire, le plus au niveau du consensus, mais écoute, moi je trouve que c'est un super athlète, joueur très intelligent, techniquement il peut un peu tout faire, c'est-à-dire que c'est pas le mec puissant, ok, il joue qu'avec sa puissance, non, il sait utiliser les mains pour se donner une position favorite, il peut attaquer à l'intérieur, à l'extérieur, il est intelligent, il sent le jeu. Moi c'est un joueur que j'aime beaucoup et je le trouve assez complémentaire de ce qu'ils ont aujourd'hui. Au sens où ça ne me choquerait même pas de le voir en fait au milieu à côté d'un Chris Jones avec Kardafty sur le côté, tu vois. Je ne suis même pas sûr qu'il soit que en edge. Il pourrait même évoluer en defensive tackle, que ça ne me choquerait pas. Donc vraiment, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et puis Rashi Rice, bon, bah, moi, c'est vrai que j'attendais un... Forcément, je suis un peu matrixé, hein, après des années de Tyreek Hill. J'attendais un Jalen Hyatt ou ce genre de mec. Bon, c'est Rashee Rice finalement. Joueur peut-être un peu plus conventionnel, mais ça reste une belle valeur pour un joueur qui a énormément produit. Sur la fin de la draft, alors je te laisserai peut-être parler de BJ Thompson parce que je dois avouer que Stephen F. Austin, j'ai pas regardé. J'ai regardé en basket paradoxalement, mais beaucoup moins en football américain. Moi j'aime bien Shamari Conner parce que je trouve que ça fait des années que dans les 4e, 5e, 6e, 7e tours, les Chiefs ils trouvent toujours ces defensive backs dont t'attends pas grand chose et puis qui finalement ils les spécialisent un peu, ils leur trouvent la meilleure position et ils finissent par produire. Shamari Conner aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un safety, je ne sais pas si c'est un cornerback, mais ce que je sais c'est que Kansas City va trouver le meilleur moyen d'utiliser. Donc, dans d'autres équipes, j'aurais été plus sceptique. À Kansas City, je suis presque optimiste pour lui. Donc, voilà, je trouve qu'il y a, il y a peu de choix, mais il y a des choix intelligents.
Oui, c'est ça. Oui, ben, peu de choix, en fait, c'est un par tour. Hein. Ils ont fait 7 choix, un par tour. Et oui, Shamari Conner, c'est un joueur très athlétique. Ils vont, comme tu dis, lui trouver une place. Et donc, ouais, moi, j'aime bien la sélection de BJ Thompson. Et je vais la coupler donc, avec Félix Anodike-Izoma. Je ne vais pas reprendre ce que tu as dit, mais Félix Anodike-Izoma, c'est quelque part une valeur sûre. Alors, je sais, parler de valeur sûre à la draft, ok, d'accord, on a compris. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment prouvé au niveau universitaire. Il sait vraiment mettre la pression. C'est quelqu'un, voilà, allez, on va dire une valeur sûre. Alors que BJ Thompson, lui, c'est aussi un pass rusher. Mais alors, lui, c'est un pari parce que ben, il vient du second niveau universitaire. Mais alors, par contre, ben, il est grand, il a une superbe envergure, il est très rapide, c'est vraiment le joueur, il n'y aura pas de pression, tu vas juste le faire travailler, le développer. Je pense qu'en 2023 on le verra assez peu, juste sur certaines troisièmes tentatives où tu le fais rentrer pour vraiment aller mettre la pression, mais c'est un joueur à développer. Et quelque part ils avaient forcément un besoin de renforcer le poste de defensive end à l'opposé de Carl Aftis, et ils l'ont fait avec deux joueurs, un joueur confirmé et puis un joueur à fort potentiel. Donc je trouve que c'est très malin. C'est comme le choix du massif nose tackle qui est André Coburn de Texas, on l'a bien vu à Texas. Alors non, comptez pas sur lui pour la mettre le pass rush, comptez pas sur lui, mais par contre pour faire souffler un petit peu Derek Nnadi, le nose tackle des Chiefs, eh ben voilà, il y a DeAndre Coburn, on le sait, ces gars sont tellement massifs et tellement dans le duel, dans les tranchées, qu'ils ont besoin de souffler. Donc Derek Nnadi sortira du terrain, souffle un peu, tu fais rentrer Coburn, quelque part c'est son jumeau, donc il n'y a pas de souci, tu perds pas en qualité. Je trouve que c'est très malin, une belle draft.
Ah bah, vu que c'est le point faible de cette défense, ça c'est sûr que tu perds pas en qualité. ça, c'est fait. Bon, du coup, la note.
Oh, moi, je vais y aller sur compliment. Compliment, il n'y a rien d'exceptionnel, mais je trouve que c'est très solide et très cohérent. Donc moi, j'y vais sur compliment.
Oui, j'étais sur encouragement, mais on est sur, un peu sur la même logique. C'est-à-dire, quand tu as aussi peu de pics, c'est difficile non plus. Tu ne vas pas viser les félicitations, mais ils ont été intelligents comme toujours. Donc voilà, encouragement, compliment. On est sur une note positive. On arrive sur une franchise étonnante, surprenante. Une franchise qui aime nous faire lever les yeux au ciel. Il s'agit des Las Vegas Raiders, qui avec le 7e choix, ont choisi le joueur le plus swag de cette draft. Hein. Si vous n'avez pas vu son costume, c'est mon coup de cœur. Tyree Wilson, Edge de Texas Tech. En 35, Michael Mayer, le tight end de Notre-Dame. En 70, Byron Young, celui d'Alabama, donc le defensive tackle. Avec le choix 100, Trey Tucker, le receveur de Cincinnati. 104, Jacorian Bennett, le defensive back de Maryland. Ensuite, on a un quarterback, Aidan O'Connell de Purdue. Christopher Smith, le safety de Georgia. Amari Burney, le linebacker de Florida. Et Nesta Jade Silvera, le defensive tackle d'Arizona State. Jean-Michel, que penses-tu? Quel est ton choix favori de cette draft des Las Vegas Raiders?
Ah, mon choix favori. Bon, il y en a quelques-uns en fin de draft aussi, on va en parler après, mais sinon je veux dire Michael Mayer. Voilà, Michael Mayer, comme ça, pris au second tour. Moi, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Quand ils sont remontés dans le second tour, je me suis dit, ah, ça y est, c'est pour prendre un backup pour quarterback. Et puis, en fait, non, ils ont pris Michael Mayer qui était disponible. Et pourquoi ça me plaît beaucoup? Ben, déjà, parce que moi, j'aime bien le joueur. Alors, je veux bien qu'il n'est pas aussi rapide, athlétique que Musgrave, que Kincaid, etc. Mais c'est quand même un Titan qui a tellement prouvé au niveau universitaire. Voilà, il s'est bloqué, il s'est attrapé les ballons, il sait tout faire. Et puis, ça me plaît beaucoup aux Raiders. Pourquoi? Ben, parce que les Raiders, eh ben, l'entraîneur, c'est Josh McDaniel. 49ers parce que le quarterback c'est Jimmy Garoppolo et donc les deux ben, viennent des Patriots, vous savez, ce système offensif qu'on voyait tout le temps il y a quelques années avec les petits lancers de Tom Brady sur des Titans et ça avançait tranquillement et ça fonctionnait. Ben voilà, c'est que ça Michael Mayer. Je trouve que Michael Mayer, il y a 4-5 ans, tu l'aurais mis aux Patriots avec Tom Brady et ça aurait été extraordinaire. Et ben voilà, je dis pas qu'on va être comme les Patriots, les Raiders, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça paraît cohérent par rapport à l'entraîneur, par rapport au quarterback. Donc du coup, ben, en plus, à l'intersaison, tu perds Darren Waller, tu perds Foster Moreau, on espère qu'il va se remettre avec ses soucis de santé. Ben voilà, tu ajoutes Michael Mayer. Moi, c'est mon choix favori, c'est Michael Mayer, même si j'en aime d'autres, évidemment.
Bah écoute, moi, mon choix favori, pour le coup, on en a un peu parlé, mais c'est la fin de la draft, en fait. Christopher Smith, Amari Bernie et Nesta Jed Silvera. Moi, je trouve que vraiment, là, il y a eu du nez creux. Parce que Christopher Smith, c'est typiquement safety, excellent nulle part, mais bon partout. Tu vois, et clairement, enfin, t'as cette valeur-là en fin de cinquième tour. Bon, bah, très bien. Enfin, c'est super. Et vraiment, c'est un joueur que j'adore, Christopher Smith. Amari Bernie, bah, pareil, ça renforce un besoin absolu. Et c'est genre joueur, il sera peut-être pas parfait en première année, mais de toute façon, tu vises pas le Super Bowl en 2023. Donc, t'as le temps de développer ces joueurs-là. Et même Nesta Silvera, qui est quasiment dans les derniers choix de la draft, ça répond à un besoin et ça renforce sa profondeur de l'effectif sur des postes à besoin. Donc, franchement, j'adore cette fin de draft. Est-ce que le vrai problème, question orientée, hein, je te préviens tout de suite, hein, est-ce que le vrai problème, c'est pas l'enchaînement Byron Young, Trey Tucker, Jacorian Bennett à 70, 100 et 104 qui a fait un peu lever des sourcils.
Ouais, ben surtout le 70. Alors c'est pas tellement sur le joueur, c'est un bon joueur, il est puissant, il a un très beau physique, j'adore ses mains violentes, etc. Et c'est vraiment un poste à besoin sur le defensive tackle. Mais c'est plus parce qu'à 70, il y avait quand même des cornerbacks à prendre et on a vraiment besoin. Enfin, les Raiders, je vais arrêter de dire on, mais les Raiders ont vraiment besoin d'un cornerback. Et on pensait, les supporters, qu'à 70, ils prendraient un cornerback. Il n'avait encore de disponible des joueurs de qualité, genre Darius Rush par exemple, et ils l'ont pas fait, donc c'est surtout ça, voilà, qui interroge. Après, ben justement, pour ce poste de cornerback, ben quelque part ils en ont pris deux, ils ont pris Christopher Smith, qui est plutôt un nickelback pour moi, il manque un peu de vitesse, mais il a beaucoup d'intelligence de jeu, et puis Jacorian Bennett, qui lui est très rapide, au contraire, il est très rapide, donc très complémentaire de Christopher Smith, mais qui manque un petit peu de gabarit, alors je trouve que ça manque quand même un peu de ce corner qu'on envisageait avant le début de la draft, mais quelque part c'est pas trop mal. Après, c'est vrai qu'ils y sont allés sur la vitesse de Trey Tucker, un receveur voilà extrêmement rapide, alors pourquoi pas. Et puis sinon, comme tu l'as dit, c'est très intéressant, Amari Bernie, un linebacker qui est très bon en couverture, donc il y a quand même des choix intelligents, mais c'est vrai que quelque part les deux premiers sont indiscutables. On s'est dit, oh là là, ils sont en train de nous faire une masterclass, et puis quand on arrive au troisième tour, on se dit ah d'accord, ok, non, peut-être pas tout à fait. Ouais.
Moi, j'avais une théorie, hein, c'est qu'ils voulaient prendre Byron Young, le Edge de Tennessee, et que le stagiaire s'est planté en remplissant le bulletin. Tu vois, il a regardé sur Wikipédia Byron Young, il a vu Alabama, il s'est dit, oh, ça doit être ça. Hein. Mais non, je suis désolé, mais... Enfin, moi, j'aime... Déjà, alors oui, c'était un besoin prioritaire pour un defensive tackle, pourquoi pas. Mais comme tu dis, il y avait des super cornerbacks de disponibles qui étaient quand même pour moi un besoin... on ne peut plus pressant. Et en plus, honnêtement, Byron Young prend Kobe Turner dans ce cas-là, quoi, parce que Byron Young, vraiment, en 70, moi, j'ai été choqué. Pour moi, c'est pas de tout sa valeur. Pareil, je dois avouer que, alors là, Trey Tucker, j'ai pas compris ce qu'ils ont vu chez lui. Enfin, il y avait plein de speedsters, pour moi, qui étaient encore en place et qui auraient été meilleurs que Trey Tucker. Et puis derrière, tu trade up pour Jacorian Bennett quand même.
Oui.
Bon, moi honnêtement, hein, les Eagles savaient trade up en 105. On savait tous c'était pour Kelly Ringo. Quand j'ai vu les Raiders en 104, je me suis dit, OK, les mecs, ils sont passés devant, tu vois. Ils ont piqué Kelly Ringo, bien joué. C'est comme ça, c'est la draft, ça arrive. Et non, Jacorian Bennett. Écoute, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais moi, je dis tout de suite dans mon évaluation, et je vais ensuite te laisser faire l'évaluation. C'est-à-dire que si tu me parles du premier et du deuxième jour, du premier et du troisième jour, j'ai envie de te donner les compliments. Je regarde le deuxième jour, je suis obligé de baisser à encouragement, quoi.
Ah oui. Bah, de toute façon, moi, je vais mettre encouragement. Voilà. Et je mets encouragement en raison des deux premiers choix, parce qu'ils sont excellents. Tyree Wilson, voilà, on en a peu parlé, mais c'est pas la peine. On en a tellement parlé avant le process, etc. Donc tout le monde le connaît. Mais les deux premiers choix, voilà, ça partait très fort. Et ensuite, forcément, ça baisse un peu, ça va sur encouragement. Après, Jacorian Bennett, faut quand même pas oublier, je veux dire, à Maryland, dans la conférence Big Ten, quand même, il a défendu 11 passes et 3 interceptions en 2021. Défendu 11 passes et 2 interceptions en 2022. Et puis, au NFL Combine, il a couru en 4,30. Alors, très intéressant d'avoir cette vitesse et en plus d'avoir montré cette production-là. Alors, non, c'était pas du tout le cornerback que j'envisageais pour les Raiders, mais c'est quand même un choix plutôt correct. Mais oui, je vais pas monter plus haut que encouragement.
Bon, du coup, on est à peu près d'accord. Pas de polémique sur ce choix-là. On verra s'il y a plus de polémique sur les Eagles que je présenterai avec Alex, si je ne dis pas de bêtises. Dernière équipe dont on n'a pas parlé, les Los Angeles Chargers, qu'on pourrait appeler peut-être les Los Angeles TCU, qui ont donc choisi avec ce 21e choix Quentin Johnston, receveur de TCU. Au deuxième tour, Tuli Tuipulotu, le edge de USC. Au troisième tour, Dayan Henley, le linebacker de Washington State. Au quatrième tour, Darius Davis, le receveur de TCU. Jordan McFadden, le tackle de Clemson, Scott McClock, le défensif tackle de Boise State, et pour finir, évidemment, Max Duggan, le quarterback de TCU. Jean-Michel, qu'est-ce que tu penses de cette draft? On commence traditionnellement, ton joueur préféré?
Ah, ben c'est le deuxième choix. Moi, c'est Tuli Tuipulotu que je préfère dans cette draft. Alors, déjà, juste un petit truc comme ça pour rigoler, quand on a fait la pastille, donc le podcast draft sur les Chargers, eh ben j'avais mis Tuli Tuipulotu, deuxième tour aux Chargers. Donc, écoute, j'ai au moins un choix de bon dans cette draft. Donc, déjà, ça me plaît pour ça, mais voilà, ça c'était juste pour la blague. Mais Tuli Tuipulotu, ce qui est très très bien, c'est que c'est un joueur que tu vas mettre dans ta rotation, derrière jouer Bosé, Khalil Mack, et c'est important d'avoir une rotation à cette position de edge rusher. C'est un joueur qui n'a pas encore 21 ans, il est extrêmement jeune, je pense que c'est un des 3-4 joueurs les plus jeunes de toute cette draft, donc tu vas pouvoir le développer, il va pouvoir apprendre tranquillement cette année, et l'année prochaine, eh ben, ça donne beaucoup de flexibilité, parce que Khalid Mack, Joey Bosa, ils commencent à coûter très cher ces gars-là, donc je pense que vraisemblablement, l'année prochaine, à la prochaine intersaison, ils en laisseront partir un des deux, Tuipulotu aura une saison NFL sur la ceinture, et donc il sera prêt à être titulaire à moindre coût, donc du coup, ça me plaît beaucoup pour ce qu'il va apporter cette année et surtout pour le futur. Je trouve que c'est un choix vraiment très très malin.
Je suis d'accord avec toi. C'était clairement mon choix favori aussi. Du coup, je vais contrebalancer, parce que spoiler, je n'ai pas beaucoup de choix favoris chez eux. Je vais direct mettre les pieds dans le plat. Je n'ai pas du tout aimé le choix de Quentin Johnston. Il y avait un besoin au poste, qui n'était pas forcément le besoin le plus criant, mais ça ne me choque pas que tu te diriges vers receveur. Mais quant à Mike Williams, pour moi, et Takinanaen aussi, pour moi, ce que tu veux rajouter, c'est un joueur fluide, un joueur rapide. C'est Zay Flowers, c'est Jordan Addison, c'est ce type de joueur. Qu'est-ce que tu vas rajouter une deuxième montagne pour... Enfin, je veux dire, c'est bien, si tu fais du ski, ça sert d'avoir deux montagnes. Mais pour le football, c'est peut-être un peu redondant, quoi. Donc là, j'ai quand même du mal. Ça va pas être le festival de la séparation. Enfin, avec Keenan Allen, si, mais avec les autres, non. Je suis un peu perturbé par ce choix. Je me dis vraiment... J'ai du mal à comprendre la logique. Alors après, je sais que le football, c'est pas binaire. T'es pas obligé d'avoir un grand receveur, un petit receveur, un edge puissant, un edge rapide, etc., etc. T'es pas obligé. Tu peux avoir des joueurs qui se ressemblent. Mais là, je trouve qu'au lieu de diversifier les menaces, bah, tu les dupliques. Et au poste de receveur, je ne suis pas forcément fan de ça. Voilà.
Oui.
Est-ce que toi, ça t'avait surpris aussi, Quentin Johnston?
Oui, ça m'avait surpris dans le sens où, comme tu l'as dit, il y avait Jordan Addison de disponible, et il y avait aussi Zay Flowers de disponible. Et franchement, je pensais que s'il partait receveur, il prendrait un de ces deux joueurs-là plutôt que Johnston. Après, Johnson, je le trouve quand même plus rapide que Mike Williams. Je trouve que ce n'est pas exactement le même joueur. Et il va apporter d'autres choses également. Donc, pourquoi pas? Surtout que pour vraiment la spécialité, la menace profonde, ils sont retournés ensuite avec Darius Davis, qui est une petite bombe. Alors certes, ce n'est pas un joueur aussi bon, aussi complet qu'un Zay Flowers, par exemple. Mais c'est quand même un joueur très intéressant aussi. Donc, ouais, ça m'a surpris aussi. Franchement, ce n'est pas non plus le joueur que j'aurais choisi. Mais après, écoute, pourquoi pas? Il a fait quand même une superbe saison. Il a quand même aussi des qualités. Alors, il a des manques, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le joueur dont on parle que de ses manques. Voilà. Tous les joueurs de la draft, même au premier tour, ils ont tous des qualités, des défauts. On parle souvent de leurs qualités et on dit oui, bah après, il faudra qu'il travaille ça, puis c'est pas grave. Voilà. Mais lui, on parle que de ses défauts. On dit ouais, il catch avec le corps, ouais, ceci, ouais, cela. Mais ses qualités, on n'en parle jamais. Alors qu'il vient de faire deux saisons fantastiques, il a quand même de la taille, de la vitesse. Et bon, écoute, oui, c'est pas le choix que j'aurais fait, mais peut-être que je serais un petit peu moins dur que certains.
Bon, je trouve que globalement, tous les receveurs ont un peu pris dans les dents sur ce processus. Il n'y a pas que lui.
Surtout lui.
Oh, Addison, il en a pris pas mal après le combine où on a commencé à dire que c'était un mauvais athlète et que machin et que truc et qu'il ne fallait pas que ce soit au premier tour. Enfin, bon. Bref, mais c'est vrai qu'après, j'assume totalement d'avoir un biais personnel, hein, puisque Quentin Johnston n'était même pas dans mon top 50 initial, il était 52 de mon big board de mémoire. Donc, j'ai très bas, hein, c'est un choix, je m'en mordrai peut-être les doigts, et ça fait partie du jeu. Mais un peu plus de mal. Après, voilà, tu vois, par exemple, typiquement, un Diane Henley au troisième tour, j'aime bien, il est complet, il dépanne, il n'y a pas de problème, mais troisième tour, en plus, il a 62 ans, hein, Henley, j'ai l'impression qu'il est là depuis toujours.
Ouais.
Troisième tour, ça fait un peu haut, quoi. Ça fait un peu haut. Donc voilà, je suis... C'est quand même une draft qui me laisse sur ma faim. Je vais pas vendre du rêve, ça me laisse un peu sur ma faim.
Oui, moi aussi, parce que tu vois, Diane Henley, comme tu l'as dit, c'est un bon joueur, on le connaît, c'est vraiment le joueur fiable. Mais donc, il a été pris au choix 85. Et au choix 86, les Ravens, ils prennent Trenton Simpson. Ouais, mais bon, je sais pas. Oui, alors c'est pas le même type de joueur. Simpson, c'est plus quelqu'un de rapide, que tu vas bouger un petit peu, voilà, sur plusieurs spots. Alors qu'Henley, c'est plus le joueur fiable à mettre au milieu à côté d'un Murray qui est bon, mais qui déçoit peut-être un petit peu comme un choix de premier tour. Mais quand même, je sais pas. Plutôt qu'Henley, prend Trenton Simpson, qui est plus jeune, plus rapide, qui t'offre d'autres perspectives. Donc, oui, un petit peu surpris également.
Et globalement, dans le reste des choix, est-ce qu'il y a quelque chose particulièrement qui t'a sauté aux yeux? Où ça te paraissait répondre à des besoins logiques?
Oui, alors déjà, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la sélection du tackle Jordan McFadden de Clemson, parce que c'est un bon tackle, très fiable, très solide, qu'on a vu à l'université depuis au moins 4 ans. Voilà, le bon joueur. Mais on savait, il manque un peu des dimensions idéales pour jouer tackle à NFL, et on pense qu'il va jouer guard. Et je me suis dit, ah ben tiens, ils nous refont le coup. Parce que l'année dernière, ils ont fait exactement la même chose avec Jamarie Sawyer, qui lui aussi était un tackle très fiable à l'université, mais qui manquait un peu de gabarit. Donc du coup, on le passe à l'intérieur, etc. Eh bien, ils nous refont le coup. Alors après, Sawyer, on l'a vu aussi, il a dépanné en tant que tackle droit aux Chargers, mais c'est plus pour être utilisé comme guard. Et je pense que McFadden aussi. Et quelque part, voilà, ça m'a un petit peu interpellé. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais voilà, ils avaient déjà une stratégie en tête. Et puis, eh ben, il a reproduit cette année. Après, Scott Matlock, j'aime bien. C'est un joueur de complément, voilà. C'est ce joueur un petit peu besogneux qui va aller au mastic sur le premier rideau, c'est plutôt intéressant. Après, Max Degan, le quarterback, bon, pourquoi pas, ça fait pas de mal, ça pourrait. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir du leadership, donc pour un backup, c'est toujours intéressant. Et puis, ils ont pris deux receveurs de TCU, donc ne serait-ce que pour à l'entraînement les faire travailler, ben, il n'y aura pas de souci.
Oui, moi, Degan, j'aime bien pour le coup. Degan, j'aime bien, écoute, je pense que. Il te faut toujours quand même un bon quarterback remplaçant. En plus, ça a l'air d'être un bon gars, comme tu dis, un leader. Le mec qui ne va pas foutre la merde dans le vestiaire. Et puis, c'est un winner. Je suis désolé, mais moi, je veux dire, j'aime bien les mecs qui gagnent des matchs. Et alors, ce n'était pas toujours conventionnel, on va dire, la manière dont TCU a gagné les matchs. Mais bon, à la fin, il les gagnait, quoi. Et c'est un peu ce qu'on demande quand même à un joueur de ce niveau-là. Donc, écoute, Degan, personnellement, moi, c'est un choix que j'aimais bien. Surtout quand tu vois qu'avant lui, ils sont pris des Clifford et compagnie.
Ouais, ouais.
Bon, je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais enfin, je préfère avoir un Degan qu'un Clifford tous les jours. Mais bon, c'est un autre débat. Ça fait sûrement partie des choix les plus problématique de cette draft. Du coup, ton évaluation finale.
Oui, ben moi je vais y aller sur encouragement. Voilà, c'est la troisième parmi les appréciations positives. Je pense que compliment c'est trop haut, je pense que félicitations n'en parle même pas. Mais je trouve pas ça mauvais non plus, il y a quand même des bons joueurs. Et puis il y a une direction, ils avaient besoin d'une menace profonde, ils l'ont adressée. Ils avaient besoin d'un pass rusher d'avenir, ils l'ont adressée. Ils avaient... Voilà, alors après, si tu me dis la première appréciation négative, c'est passable, il me semble, je ne serais pas choqué par passable. Donc, je suis entre passable et encouragement. Et puis, allez, je vais y aller sur encouragement.
Écoute, moi, à partir du moment où il n'y a que deux choix qui m'intéressent sur 7 et qu'un des deux choix qui m'intéresse, c'est le quarterback remplaçant, je vais sur passable. Et honnêtement, j'étais presque tenté d'aller sur mauvais.
Oh.
Mais je reste sur passable.
Vous voyez, je ne suis pas choqué par passable, oui.
Pour le coup, c'est vrai que c'est une draft. Je ne suis pas très amoureux de cette draft. Ceci étant dit, on a donc fait le tour avec du bon, du moins bon dans cette AFC. Vous avez retrouvé donc, les quatre divisions une par jour dans cette semaine du 1er mai. Comme je disais dans le podcast hier, vous retrouverez la NFC la semaine prochaine, donc à partir du mardi 9 mai, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Jean-Michel ne sera pas là parce que à un moment on en a marre. Hein. Il a fait 218 podcasts. Faut que ça s'arrête, quoi. Non, évidemment, on fait un peu tourner, notamment Alex qu'on n'a pas beaucoup entendu en podcast cette année, qui va nous rejoindre. Donc n'hésitez pas à rester branché la semaine prochaine. Et il se peut, on verra, on ne sait pas encore sous quel format, mais c'est vrai qu'on aime bien Jean-Michel et moi. Ça fait déjà 2 ans ou 3 ans qu'on le fait. Mi-mai, on sort toujours une mock. Un an avant, et alors vous allez avoir deux choses. Vous allez avoir le débrief de la mock d'il y a un an, parce que ça, c'est rigolo. Et évidemment, vous aurez la draft 2024, puisque nous ne nous arrêtons jamais. Et que le meilleur quarterback, c'est Drake May et pas Caleb Williams. Mais ça, évidemment, on en parlera tous ensemble. Merci Jean-Michel.
Merci Victor. Et puis, bonne journée, bonne soirée tout le monde.
Merci à tous. Et à la semaine prochaine. Salut, salut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.